Pourquoi la réserve fédérale des États-Unis s'est-elle montrée si hawkish pour l'année 2025? Le marché action est-il menacé par ce cadre monétaire prospectif qu'a décrit la réserve fédérale des États-Unis? Chers amis, je suis ravi de vous retrouver pour la nouvelle édition du Top Gun. Tout d'abord, je vous souhaite à toutes et à tous un joyeux Noël. Merci de votre fidélité, merci d'être toujours présent pour cette émission lundi du Top Gun. La Fed a cassé l'ambiance la semaine dernière. Une Fed intransigeante. Une Fed qui n'a pas confirmé ses anticipations de septembre dernier. Pire, elle envisage que sa cible d'inflation de 2% ne soit pas faite avant l'année 2027. La mise à jour des projections macroéconomiques de la Fed la semaine dernière, il faut vraiment que je revienne dessus, parce que, alors moi je pense, je vais vous donner mon avis personnel, moi je pense que la Fed, elle est dans l'excès de prudence. Finalement, elle n'avait pas le choix. En clair, tout part de quoi? Tout part de quoi? Deux choses. Premier élément, la petite surchauffe d'inflation de cette fin d'année 2024, en grande partie liée à un effet de base. Je vous en ai parlé dans le Top Gun la semaine dernière, j'en redis un mot. Deuxième chose, forcément, oui, la victoire de Donald Trump à l'élection présidentielle et ce nouveau facteur à gérer, le facteur X, qui est quelle sera la politique budgétaire menée, quelle sera la politique commerciale qui sera menée en 2025, en tout cas au moins jusqu'à février 2026. Alors, c'est la fin du mandat de Jérôme Powell. Y aura-t-il un impact inflationniste? Bref. La Fed, en fait, on peut voir le verre à moitié plein, le verre à moitié vide. Il y a eu un choc immédiat sur les actifs risqués en bourse. Marché action, marché des crypto-monnaies, dollar cap pumpé, il y a eu un choc immédiat. Moi, je pense que la Fed n'avait pas le choix. Imaginez le contraire. Et je vais, dans la première partie, je vais vous montrer en détail ces nouvelles anticipations de la Fed. Mais imaginez le contraire. Si la Fed avait confirmer ses anticipations proposées en septembre dernier. C'est-à-dire que oui, pas de souci, la cible d'inflation sera faite d'ici fin 2025, oui, nous allons encore baisser 4 fois les taux, il y aura de la croissance, le chômage va rester bas, tout va bien. La Fed ne pouvait pas faire ça. La Fed ne pouvait pas faire ça. C'était prendre énormément de risques. Et elle se souvient d'ailleurs du risque qu'elle avait pris. Souvenez-vous, à l'époque, en décembre 2023, où elle avait eu le même type de discours et avait suivi les 4-5 premiers mois de l'année un rebond de l'inflation. En réalité, je pense que là, la Fed veut se mettre dans une position inverse, en proposant des projections macroéconomiques volontairement très pessimistes. Car, oh que oui, elles sont pessimistes. Lorsque vous regardez le nouveau tableau des projections macro de la Fed, l'inflation nominale ne baisse pas. Je vous rappelle qu'en septembre, Ben nous disait, en 2025, sa cible d'inflation serait faite, ou quasi, pareil. Là, elle nous dit, non, ah ben non, l'inflation va baisser. Une année 2025, donc pour rien. Alors, la Fed a divisé par deux ses anticipations de baisse du taux d'intérêt des fonds fédéraux. Elle nous annonce quand même deux baisses de taux. Une à peu près certaine, d'ailleurs le marché n'envisage plus qu'une. Mais vous savez, tout ça va archi vite. Une fois que, là, cette fin d'année, donc en janvier, puisqu'en janvier vous aurez l'inflation en fait de décembre, oui, les chiffres seront pas bons. C'est la surchauffe de fin 2024, c'est pour le moment l'effet de base. Mais très vite, à partir de février, nous allons savoir si c'était uniquement l'effet de base, parce que fin 2023, l'inflation avait droppé. Un taux d'inflation, c'est d'une année sur l'autre, d'accord? Donc, on parle d'un effet de base qui était défavorable. Vous comprenez pourquoi? Ça crée la surchauffe. À partir de février, nous verrons bien. Le pétrole est un bon exemple de cet effet de base. Donc, la Fed, je pense, en partant d'un cadre très pessimiste, en nous disant, voilà, en 2025, l'inflation nominale PCE va rester à 2,5. Le corps va rester à 2,5. En partant de perspectives aussi pessimistes, on ne peut avoir que des bonnes surprises. Mais en fait, la Fed a surtout voulu rappeler que maintenant, pour agir à la baisse sur ses taux d'intérêt, elle veut constater la reprise de la désinflation. Même si elle le sait, et c'est ce que disent les économistes de la Fed, que c'est en grande partie un effet de base. En tout cas, pour le moment, c'est pas structurel, c'est conjoncturel. Est-ce que ça va changer avec l'administration Trump? Nous verrons bien. Il y a aussi un énorme débat sur la politique budgétaire prospective et commerciale de Donald Trump. Sera-t-elle inflationniste ou pas? Si oui, est-ce que ça va concerner tous les biens et services ou pas? Bon, c'est complexe. C'est complexe. Mais je pense que face à ça, l'incertitude, la complexité, les doutes, et puis pour se mettre dans une position confortable, qui est partir d'une base pessimiste, pour finalement pouvoir agir dès lors qu'il y aurait des bonnes surprises. Si la Fed était partie sur de l'optimisme, oui, tout va bien, l'inflation va continuer de baisser à 2%, elle était complètement coincée. Parce que là, on est en surchauffe, l'inflation est en surchauffe, ça va prendre un peu de temps pour quand ça reprenne la direction du Sud. Elle était coincée, elle ne pouvait plus agir, ni baisser ses taux. Mais en partant d'objectifs volontairement pessimistes, elle retrouve un moyen d'agir. Je pense qu'elle a voulu, c'est mon opinion, se placer dans ce positionnement psychologique d'une certaine façon. Avoir une liberté d'action. Alors là où elle prend des risques aussi, vous allez voir. Alors, il faut voir le verre à moitié plein, le verre à moitié vide. Le verre à moitié plein, c'est qu'elle nous dit, il y a de la croissance économique. Et elle accélère même. Bon, elle est inflationniste. Alors, je vous demande, qu'est-ce que vous préférez? Pour le marché action, vous préférez de la croissance économique avec un chômage bas, mais de l'inflation, ou moins de croissance, plus de chômage, moins d'inflation, et donc plus de baisse de taux? De la croissance et moins de baisse de taux, moins de croissance, plus de baisse de taux. Vous connaissez la réponse. Le marché action préfère plus de croissance et moins de baisse de taux. Donc, au final, pour le marché action, laisser la poussière retomber. Mais, et encore, là, la Fed, ce qu'elle nous dit, c'est un cadre monétaire et macro prospectif. C'est-à-dire, dans 3 semaines, 1 mois, des nouveaux chiffres tombent, on reprend tout, comme d'habitude. Donc, c'était, je pense, pour avoir une base de départ assez pessimiste, peu ambitieuse, qui ne peut réserver que des bonnes surprises, pour le coup. Donc, finalement, le marché, dans un premier temps, c'est effectivement été surpris, mais il n'y a pas un stress structurel pour le moment. Je voulais absolument insister là-dessus. Donc, dans cette dernière édition du Top Gun avant Noël, joyeux Noël, chers amis, je vous fais un topo sur ça, on reprend le tableau. Deuxième partie, bien sûr, que l'équation, le facteur Trump, même si la Fed n'a pas rajouté dans ses objectifs macro une ligne Trump. Et on le voit très bien qu'à partir avec la mise à jour de ses objectifs d'inflation, ça sort pas de nulle part de la mettre aussi haute pour 2025 et de reporter quasiment de deux ans dans le futur l'atteinte de la cible d'inflation. On est passé de fin 2025 à 2027. Mais Trump est intégré, même si c'est pas écrit noir sur blanc dans le communiqué de presse. Tout ça, c'est pour se baquer. C'est pour voir venir. L'intransigeance de la Fed n'est pas la certitude qu'elle va avoir du mal à lutter contre l'inflation. C'est pour voir venir. À part l'intransigeance de la Réserve fédérale des États-Unis. Et commençons par constater cette intransigeance. 3 parties pour un Top Gun court, structuré. La Réserve fédérale des États-Unis a dévoilé son plan d'action monétaire et macroéconomique pour l'année 2025. Inflation, emploi, croissance économique, taux d'intérêt, taux neutre. Vincent Gann, qui c'est celui-là, passe en revue les nouvelles anticipations très hawkish de la Fed. Hawkish. Quel cadre monétaire nous attend en 2025? 3 parties. Puisque je vous fais comme d'habitude le suivi technique du S&P 500. Le plan monétaire et macro de la Réserve fédérale des États-Unis pour l'année 2025, chers amis. Je vous ai tout mis ici, mais je vais vous décrire le contenu de ce tableau. Vous pouvez lire tranquillement ce qu'il y a à gauche, puisque je vais tout mettre à l'oral, mais d'une manière différente. Vous avez ici à droite le tableau de la peur. Le tableau qui a déclenché le stress dans la nuit de mercredi à jeudi dernier. Le tableau de l'intransigeance de la Fed. Le tableau du pessimisme de la Fed. Mais un pessimisme surjoué, à mon avis. Un excès de pessimisme, un positionnement, une posture, voir venir, ne pas faire la même erreur qu'en décembre 2023. C'est tout ce qu'a fait la Fed. Elle a voulu, en décembre 2024, ne pas faire la même erreur qu'en décembre 2023. Et regardons en détail tout ceci. Ah voilà, le petit tableau. Alors là, je suis simplement sur le site de la Réserve fédérale des États-Unis, vous pouvez retrouver le même tableau que moi. C'est assez incroyable. Déjà, commençons par les mauvaises nouvelles. L'inflation, c'est la cata. Permettez-moi d'en rajouter, c'est l'euphorie des fêtes de fin d'année, je surjoue comme la Fed a surjoué. La Fed, en septembre dernier, cette ligne, nous disait que fin 2025, c'était plié. C'était plié fin 2025, 2,1. 2,1, c'est 2, d'accord, on s'en fout. C'était plié, impeccable, plus d'inflation. Et là, elle nous dit, non seulement c'est pas plié, mais ça réaccélère à la hausse. Ça a choqué tout le monde. La cible qui devait être faite fin 2025, elle va être faite en 2027. Pour l'inflation sous-jacente, c'est quasiment le même schmilblick. Ça devait être fait courant 2025-2026, ça ne le sera pas avant 2027. Et surtout, les progrès sont minimes en termes d'inflation corps. Mais ça va aller tellement vite, ça peut aller tellement vite. En donnant des objectifs macro pour 2025, aussi pessimistes, elle se donne une marge de manœuvre. Alors effectivement, la Fed est passée de 4 baisses de taux à 2 baisses de taux seulement maximum en 2025, et idem en 2026. L'autre mauvaise nouvelle a été le rehaussement du taux d'intérêt dit neutre. Le taux d'intérêt dit neutre, vous savez ce que c'est. Ce taux d'intérêt des fonds fédéraux qui est censé être pour l'économie ni restrictif, ni accommodant. Pendant longtemps, avant la crise inflationniste, avant la crise sanitaire, c'était 2,5. La crise sanitaire est arrivée par là, augmentation de l'inflation structurelle. De 9. Là, elle l'a rehaussé entre 3 et 3,1. Et oui, les amis, les taux zéro de la période 2009-2021, c'est fini, mais ça, nous le savions. Par contre, ce que les économistes sont toujours en train d'essayer d'établir, c'est où se situe maintenant le taux neutre. Et effectivement, on va plus tourner autour de 3 maintenant. Mais c'est pas si mal, finalement. Ça autorise de la croissance. Les taux zéro, ça a plein d'effets secondaires négatifs. Bon, nous n'avons pas parlé de ce sujet-là. Mais ça a représenté un risque pour les actifs risqués. Alors, ça représente un risque sur les actifs risqués. Si à côté de ça, il n'y a pas de croissance. Mais c'est là où il fallait voir le verre à moitié plein. Et c'est là où on pouvait voir aussi le verre à moitié plein. Regardez, la Fed a revu en hausse ses anticipations en matière de croissance économique. Vous n'êtes pas sans savoir que la tendance haussière du marché action, ce sont d'abord les perspectives de profit des entreprises. Perspectives de profit des entreprises, alors qui sont ici mis en évidence par ce graphique ici sur Guru Focus, hyper optimiste pour 2025, en lien direct avec les anticipations de croissance économique que la Fed maintient très optimiste. Elle a même, pour 2025, revu un peu en hausse son anticipation de taux de croissance économique du PIB réel des États-Unis. Elle a même revu en baisse, et là, elle prend pour moi un énorme risque. Regardez bien. La Fed nous dit qu'en 2025, le taux de chômage ne dépassera pas 4,3% de la population active. Contre 4,4% précédemment, c'était son seuil d'alerte. En clair, la Fed, qu'est-ce qu'elle fait là? Elle abaisse son seuil d'alerte. Le seuil d'alerte a été abaissé en termes de taux de chômage à 4,3% de la population active. Vous connaissez le taux de chômage actuel. Il est à 4,2%. Mais il n'est pas le taux de chômage actuel. Il est à 4,2% de la population active. Mais il n'est pas 4,2%. Ça, c'est arrondi. Il est à 4,25%. C'est un risque énorme. Imaginez le prochain rapport NFP ou le suivant. Le taux de chômage monte à 4,3. Boum, on est dans la zone d'alerte. Elle va être obligée de baisser ses taux. Ça, pour moi, c'est un coup incompréhensible. Alors, on a à la fois ici un pessimisme incroyable pour l'inflation et un optimisme renforcé pour l'emploi. Elle n'était pas obligée d'être aussi optimiste pour l'emploi. Elle se tend un piège, là. Moi, j'ai tout de suite repéré, là, le piège qu'elle s'était tendu. Donc ça va être passionnant, 2025. En tout cas, la Fed nous rappelle que l'inflation compte avant tout. C'est là où son stress prédomine. L'inflation nominale selon le CPI qui est à 2,7, en version sous-jacente qui est à 3,3, qui ne fait plus de progrès vers la cible. On le voit bien avec le PCE. La fin d'année 2024 n'a pas vu la poursuite des progrès. Nous sommes passés pas loin de revenir au monde d'avant, mais pas encore. Et en cette fin d'année, le PCE continue de se reprendre un peu. Alors, en grande partie, à cause d'un effet de base. Vous avez ici le CPI en version absolue. Regardez, en octobre, novembre, décembre 2023, il avait droppé. Donc, lorsque vous faites le taux de croissance annuel entre octobre, novembre, décembre 2024 à cette fin 2023, la base d'il y a un an étant baissière, mécaniquement, ça augmente le taux d'inflation. La vraie question, c'est que l'effet de base défavorable disparaît début 2025 parce qu'il avait disparu début 2024. Et là, et c'est là où il va falloir reconstater les progrès en matière de désinflation. Car si début 2025, on ne constate pas le retour des progrès en matière de désinflation, donc c'est-à-dire à partir de janvier 2024, donc s'il publie en février 2025, c'est qu'il y a un problème qui dépasse le simple effet de base. Et là, ce sera plus compliqué. Donc la Fed, en étant pessimiste comme ça sur l'inflation, se donne juste de la marge, voire venir. Moi, je ne serais pas surpris, vous allez voir en 2025, qu'on ait plus qu'une à deux baisses de taux. Et je pense que là, elle a été volontairement pessimiste. Par contre, là, elle prend des risques. Moi, je ne serais pas surpris qu'on ait davantage de chômage qu'elle l'envisage et moins d'inflation. Nous verrons bien. Nous allons en parler chaque lundi dans le Top Gap. Alors, maintenant, dans les autres éléments qui expliquent en grande partie la Fed, c'est bien sûr le facteur Donald Trump. Quel sera l'impact sur l'inflation, mais aussi sur l'emploi, et c'est là où elle prend des risques, de la politique budgétaire et commerciale agressive, tarifs douaniers, baisse d'impôts, qui arrive et qui va arriver dès le jour 1 de la prise de fonction de la nouvelle administration Trump. La guerre commerciale de Trump, les droits de douane élevés, les importations chinoises avaient entraîné une hausse du prix des biens importés entre 2016 et 2020. Constatez ici quel fut l'impact inflationniste du premier mandat de Donald Trump. Naturellement, il faut bien comprendre une chose, c'est que l'impact sur l'inflation est en débat. Vous allez avoir le prix de certains biens importés qui va augmenter, mais ça peut aussi retirer du pouvoir d'achat aux consommateurs et in fine se traduire par la baisse du prix de biens et services qui ne sont pas concernés par le commerce international. C'est donc compliqué. Les entreprises, effectivement, peuvent répercuter cette augmentation des coûts sur les consommateurs. Il peut y avoir, dans un premier temps, un effet inflationniste. Les tarifs douaniers avaient à l'époque perturbé les chaînes d'approvisionnement. C'est des coûts en plus. Les entreprises, provisoirement, augmentent les prix. Ok, très bien. Mais ça avait concerné, finalement, certains secteurs, notamment certains secteurs industriels de l'America First, mais beaucoup moins l'inflation des services, qui ne sera quasiment pas concernée par cette guerre commerciale. Donc, il y a un facteur d'incertitude avec Donald Trump en matière d'inflation et d'emploi. Personne, parce que déjà, lorsque vous regardez les études qui ont été faites sur le premier mandat de Trump, grosso modo, que disent les études ? Il y a eu un effet légèrement négatif sur l'emploi, à peine perceptible sur l'inflation. Voilà, toute chose égale par ailleurs, en faisant la somme de tout à la fin, en faisant les comptes. Bon. Mais il y a de l'incertitude. Guerre commerciale, accords commerciaux. Dans le degré au quiche de ce qu'a publié la Réserve fédérale la semaine dernière, et son pessimisme quant à l'inflation, je suis convaincu qu'elle a intégré cette incertitude Donald Trump. Elle n'a pas la conviction que ça va être plus difficile de lutter contre l'inflation, mais elle préfère partir d'un scénario pessimiste pour faire face à toutes les hypothèses. Voilà pourquoi je pense qu'au stade actuel, il y a plus de peur que de mal. J'insiste, il y a plus de peur que de mal. Et maintenant, chers amis, comme d'habitude, nous allons terminer la vidéo par un point d'analyse technique sur l'indice S&P 500. C'est parti pour le point technique traditionnel sur l'indice S&P 500 en souffrance après la réserve fédérale des États-Unis, Jerome Powell, qui a cassé les actifs risqués en bourse, du moins à court terme. Désormais, chaque chiffre macro va compter. Bon, nous venons d'en parler. Alors, moi, je pense que Jerome Powell nous fixe un cadre volontairement pessimiste et nous ne pouvons avoir que des bonnes surprises finalement en début d'année prochaine. Il n'avait pas le choix, les amis, il fallait mettre à cette surchauffe, hein, cette surchauffe post-Trump. Quelles sont les conséquences techniques? Alors, en données mensuelles, rien. Non seulement parce que déjà, la clôture mensuelle n'est pas là, donc on peut pas l'interpréter, mais somme toute, nous n'avons pas en données mensuelles, donc le temps long, de divergence baissière de long terme qui indique une fin de cycle. Pour moi, le cycle se terminera quelque part en 2025. C'est-à-dire que la correction actuelle est une correction court terme. Ça peut durer quelques jours, peut-être quelques semaines, nous verrons bien. Mais la hausse reprendra pour un haut de cycle qui aura lieu en 2025. Et cette divergence sera créée, vous allez voir, d'ici le mois de décembre 2025. Donc sur cet horizon de temps, RAS. Par contre, pour ce qui est du court moyen terme, quelques séances à quelques semaines, effectivement, les choses changent un peu. Il y a tout d'abord, pour le coup, donc une divergence en données hebdomadaires, divergence qui apparaît ici régulièrement et qui crée donc des sous-vagues au sein de la tendance haussière de fond. Alors, la question tout de suite, moi qui me vient à l'esprit, c'est est-ce que cette vague 5 est terminée ou sommes-nous toujours en train de la construire? Alors, moi j'estime qu'elle n'est pas terminée, nous sommes toujours en train de la construire, il s'agit probablement d'une sous-vague 4, quatrième temps correctif au sein de cette grande vague 5. Alors, je mets aussi un point d'interrogation parce que nous aurons l'occasion d'y revenir ces prochaines semaines. Mais j'estime qu'ici, nous avons fini la sous 3 de la grande 5 et que nous rentrons dans un temps correctif. Il va falloir lui laisser le temps de se développer. Et donc, justement, c'est là où l'horizon de temps journalier va nous apporter des explications, des hypothèses. Alors, effectivement, la bougie de rejet ici, suite à la mise à jour des projections macroéconomiques de la Fed, un Powell intransigeant, au quiche. Un Powell qui n'a pas voulu, qui a voulu peut-être casser certains jouets sous le sapin. Il a cassé certains jouets sous le sapin de Noël. Violente bougie, d'ailleurs, qui venait ici tout de suite fermer un gap d'épuisement. On repasse sous 6000 points, marché correctif sous 6000 points. Il y a deux hypothèses. L'hypothèse la plus bullish serait combinaison des facteurs techniques. Un marché dans la capacité de tenir le nuage daily du système Ichimoku, tenir ce support, se stabiliser, repartir. L'hypothèse d'une correction plus profonde consisterait à enfin revenir en direction de la moyenne mobile à 200 jours, entrer dans le nuage, viser la SSB, revenir, s'appuyer sur ce gap haussier de septembre dernier, revenir chercher les bases de l'accélération de la victoire de Donald Trump à l'élection présidentielle. Voilà une grosse zone support qui sera bientôt rejointe par la SMA 200. Worst case scénario, le marché ira former une base dans cet intervalle entre 5600 et 5750 avant de repartir en janvier. La 1, tenir ça, on l'enfonce, on viendra chercher cette zone. Le gap, la base de départ de l'accélération de la victoire de Trump à l'élection présidentielle, la SMA 200 qui revient. N'oubliez pas cette SMA 200, notamment sur les GAFAM, ça se surveille de près car c'est intéressant. Et derrière, repartir. Tout ça est très sain, tout ça vient dégonfler une bulle de novembre-décembre, enfin une bulle, un excès d'optimisme. Maintenant, c'est le temps du reality check, comme disaient les Américains. Ça dégonfle le réservoir des acheteurs, qui était un peu trop rempli. On le vide. Ça dégonfle un cadre quantitatif, qui était un peu dans sa partie haute. Regardez le pourcentage d'actions au-dessus de la moyenne mobile à 50 jours, qui retombe. Et donc, lorsque le S&P 500 va revenir chercher ça, s'il y va, avec un cadre quantitatif à nouveau propice au retour des acheteurs, le marché repartira. Chers amis, je vous souhaite à toutes et à tous un joyeux Noël et j'aurai le plaisir de vous retrouver pour le Top Gun du lundi 30 décembre 2024. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine.